Bonjour à toutes et à tous, c'est le marque-page qui commence au programme de cette émission, deux chroniques, la première par Cécile, ça s'appelle Révolution, et la deuxième par Marie-Hélène qui va vous parler d'un ouvrage de Jack Black, Yeg. Bonne écoute.
Révolution. Dans ma chambre, le lit se trouvait ici, l'armoire là, et entre les deux, il y avait la table. Jusqu'au jour où j'en eus assez. Je déplaçai le lit là et l'armoire ici. Pendant un certain temps, je sentis couler en moi un courant novateur vivifiant. Mais au bout de quelques jours, l'ennui revint. J'en tirai la conclusion que la source de mon ennui était la table, ou plutôt sa position immuablement centrale. Je poussai donc la table là et le lit au milieu, de façon anticonformiste. Cette seconde nouveauté me redonna de la vitalité, et tant qu'elle dura, j'acceptai la gêne anticonformiste qu'elle occasionnait. En effet, je ne pouvais plus dormir maintenant, le visage tourné vers le mur, ce qui avait toujours constitué ma position préférée. Au bout d'un certain temps, néanmoins, la nouveauté cessa d'être nouvelle, et seule subsista la gêne. Dans ces conditions, je poussai le lit ici et l'armoire au milieu. Cette fois, le changement fut radical. En effet, l'armoire au milieu de la chambre, c'était plus que de l'anticonformisme, c'était de l'avant-garde. Au bout d'un certain temps, néanmoins, ah, ce maudit certain temps, bref, même l'armoire au milieu de la chambre cessa de me paraître quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Il convenait d'opérer une cassure, de prendre une décision fondamentale. Si, dans le cadre ci-dessus défini, aucun véritable changement n'était possible, il importait de sortir complètement de ce cadre. Dès lors que l'anticonformisme se révélait insuffisant, dès lors que l'avant-garde ne donnait aucun résultat, il fallait accomplir une révolution. Je pris la décision de dormir dans l'armoire. Tous ceux qui ont essayé de dormir debout dans une armoire savent qu'avec une telle absence de confort, on est absolument assuré de ne pas trouver le sommeil, sans parler de l'exténuation qui s'empare des jambes et des douleurs dans la colonne vertébrale. Oui, ce fut une bonne décision, succès, victoire complète. Car cette fois-ci, même le certain temps n'eut aucune prise. Au bout d'un certain temps, non seulement je ne m'habituais pas à mon changement, c'est-à-dire que le changement demeura changement, mais au contraire, je ressentis ce changement avec de plus en plus d'acuité, car la douleur allait croissant à mesure que le temps passait. Tout aurait donc été pour le mieux, n'eût été ma résistance physique, qui s'avéra limitée. Une certaine nuit, je n'y tins plus. Je sortis de l'armoire et m'allongeai sur le lit. Je dormis 3 jours et 3 nuits. Après quoi, je poussai l'armoire contre le mur et la table au milieu, car l'armoire au milieu me gênait. Maintenant, le lit se trouve ici, comme avant. L'armoire là. Et entre les deux, il y a la table. Quand l'ennui me guette, je me remémore l'époque où j'étais révolutionnaire. C'était Révolution, une nouvelle de Slavomir Mrozek, extraite du recueil La vie est difficile, paru aux éditions Albin Michel en 1991.
Time flies. Que j'ai perdu ma mère à l'âge de 10 ans n'excuse pas tout ce que j'ai fait. Néanmoins, on est bien en droit de se demander si les choses auraient pu prendre une autre tournure. Ma mère est morte avant que j'aie l'occasion de bien la connaître. Je doute fort qu'un enfant s'intéresse beaucoup à ses parents avant l'âge de 10 ou 12 ans. Je pensais probablement que la seule raison d'être de ma mère était de me frotter le visage et la nuque et d'endurer mes coups et mes cris, de me recouvrir de bouts de tissu rêche, gras et puant quand j'avais une bronchite, et de rester à mon chevet pour que je ne sorte pas de mon lit lorsque j'avais la rougeole. Je ne me souviens pas d'avoir été choquée ou attristée à son enterrement. Je pleurais parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Les parentes de ma mère, un couple de sœurs que je n'avais jamais vues et ne devais jamais revoir, pleuraient. Je vis des larmes dans les yeux de mon père. Alors, je m'efforçais de pleurer aussi et j'y parvins. Aujourd'hui, je sais que mon père prenait conscience de ce que nous venions de perdre et que son chagrin était réel. Mais je ne pouvais pas le sentir alors. Quelques jours plus tard, mon père vendit notre petite maison et nos meubles et nous nous installâmes dans l'unique hôtel de la petite ville. Il n'y avait guère d'école pour les enfants pauvres à l'époque. Je jouais à côté de l'hôtel pendant la journée en toute liberté jusqu'à ce que mon père rentre du travail. Il prenait alors son dîner, lisait un journal avant de me mettre au lit. Puis il lisait un livre pendant une heure et se couchait à son tour. Nous vécûmes ainsi pendant presque une année. Parfois, la nuit, il posait son livre et me regardait bizarrement plusieurs minutes d'affilée. J'étais un problème, c'était clair, et il se demandait ce qu'il allait faire de moi. Un garçon de 10 ans privé de sa mère causerait du souci à n'importe quel père, et le mien était un homme soucieux. Lorsque j'y repense, j'ai l'impression d'avoir été ballottée de ci de là, comme une feuille morte fouettée par le vent d'automne qui vient finir sa course contre une clôture accueillante. Lorsque je quittais l'école, j'étais aussi mal dégrossie qu'un garçon de 14 ans peut l'être. J'étais aussi ignorante du monde et de ses voies impénétrables que la douce et sainte femme qui m'avait appris à réciter mes prières au couvent. Avant mon 20e anniversaire, j'étais sur le banc des accusés d'une cour d'assises pour tentative de vol. Je fus acquittée, mais ça, c'est une autre histoire. Entre 14 et 20 ans, je m'étais enfuie de chez mon père et j'avais pris la route. J'étais devenue un voleur à l'arraché, un videur de tiroir-caisse, un chapardeur, un visiteur de pension bon marché. En somme, un gagne-petit plein de promesses. À 25 ans, j'étais un cambrioleur confirmé, un rôdeur de nuit, attentif à ne jeter son dévolu que sur les meilleures maisons, celles des gens aisés, négligents et assurés. Je les visitais aux premières heures de la nuit, toujours armés. À 30 ans, j'étais un membre respecté de la confrérie des yeggs, ou casseurs de coffres-forts, une profession dont on ignore presque tout. Le yegg est silencieux, secret, toujours sur ses gardes. Éternel voyageur, il ne travaille que de nuit. Il ne se montre pas au grand jour. S'égare rarement loin de ceux de son espèce et évite toujours de se faire reconnaître. Ne se déplaçant jamais sans son revolver chargé, le yegg fait la loi dans le monde du crime. À 40 ans, j'étais un voleur de grand chemin qualifié, solitaire et compétent, un évadé, un fugitif, avec pas moins de 25 ans d'expérience dans le milieu. Une bien triste expérience. Innombrables vols, effractions, cambriolages, toutes les manières possibles d'attenter à la propriété privée. Arrestations, procès, acquittements, condamnations, évasions, prisons. J'en vois quatre qui se dessinent plus nettement. Maison d'arrêt, centre de détention, prison municipale, caserne de la police montée, cachot, le trou, les régimes au pain et à l'eau, les mauvais traitements, les coups de fouet, la meurtrière camisole. Je revois les fumeries d'opium, les rades à poivreaux, les repères de voleurs et de mendiants, le crime suivi d'un châtiment rapide sous une forme ou une autre. J'ai très peu eu l'occasion de boire un verre de vin sur cette route. J'ai rarement vu une femme sourire. J'ai entendu peu de chansons. Pendant ces 25 ans, voilà toutes les choses qui me sont arrivées et que je vais raconter ici. Et je vais les raconter comme je les ai vécues, le sourire aux lèvres. Je vous ai lu un morceau du tout début du livre Yeg, qui a pour sous-titre « Autoportrait d'un honorable hors la loi ». C'est un ouvrage qui a été publié aux États-Unis en 1926, qui est le récit de la vie criminelle de Jack Black, de son initiation, de son apprentissage auprès d'artistes du cambriolage, de ses succès et de ses revers. À travers l'Ouest américain de la fin du 19e et du début du 20e siècle, il nous fait rencontrer l'Amérique vagabonde et souterraine des hobos et des criminels avec ses codes et ses héros. À bord des trains de marchandises, dans les fumeries d'opium, les tribunaux, les geôles de campagne, les pénitenciers, Jack Black nous donne à voir une géographie parallèle, faite de chemins de traverse, de refuges sûrs, de campements précaires et de repères de receleurs, celle du refus de se laisser enfermer dans les conventions et les emplois des honnêtes citoyens. Voilà donc cet ouvrage qui a été republié par les éditions Les Fondeurs de Briques en 2008. Et dans cette publication, le livre lui-même, le récit lui-même, est suivi par un petit texte dont je voudrais vous faire une partie de lecture maintenant. Il s'agit d'un article écrit par donc Jack Black et qui se nomme « Qu'est-ce qui cloche chez les honnêtes gens ?» C'est un article qu'il a écrit après être sorti justement de cette profession, je dirais, de yeg et de malfaiteur. Donc c'est écrit en 1929 et c'est paru dans Harper's Magazine. Je vous en lis quelques petits extraits. Rien de tel qu'un nœud coulant pour faire respecter la loi. Tel était le credo des milices de Californie lorsqu'elles partirent en guerre contre le crime au temps de la ruée vers l'or. Au nom de la loi, ils décidèrent de ne pas faire de détails. Ils pendirent les assassins et voleurs de chevaux pour faire de San Francisco une cité prospère. C'étaient eux les honnêtes gens de l'époque, de vrais gentlemen, engagés dans une noble mission. Mais, comme tous les autres gentlemen devenus réformateurs, et ce depuis la nuit des temps, ils s'enivrèrent de sang et de pouvoir. Tant qu'ils passaient la corde au cou des voleurs de chevaux, la populace détournait les yeux. Mais quand ils succombèrent à l'inévitable tentation de pendre leurs concurrents et leurs adversaires politiques, cette même populace les traita sans ménagement. C'était l'époque des charrettes à bœufs et des chariots couverts. Notre époque est celle des automobiles et des avions. Beaucoup de choses ont changé, mais 80 ans plus tard, les méthodes avec lesquelles les honnêtes gens s'occupent de ceux qui ne le sont pas n'ont guère évolué. Et l'on traite la présente vague de criminalité avec le même état d'esprit que les miliciens de 1849. Rien de tel qu'une matraque pour faire respecter la loi. Ces mots pourraient être ceux des miliciens, mais ils ont été prononcés par l'actuel chef de police de New York alors qu'il lançait la vaste campagne de nettoyage de la ville qui devait marquer le début de son règne. Les seuls résultats visibles de cette politique sont les nombreux passages à tabac et fusillades systématiques de la part de la police qui entraînent une augmentation des meurtres et des crimes violents. Nous vivons une époque violente, nous sommes tous d'accord là-dessus. La question est de savoir à qui l'on doit cette violence. Sont-ce les criminels qui poussent les honnêtes gens à la violence ou le contraire? Les torts sont-ils partagés? Avec la distance que j'ai aujourd'hui, il me semble que la société lutte contre les gangsters avec des méthodes de gangsters, contre les brutes avec des méthodes de brutes et contre les assassins avec des méthodes d'assassins, sans jamais se poser la question de savoir si cela ne mène pas à une escalade de la violence. À travers toute l'Amérique, les honnêtes gens écrivent et discourent sur les criminels. Les comités de lutte contre le crime et des individus appartenant à tous les échelons de la société, du juge de la Cour suprême au réformateur des plus petits patelins, enquêtent sur les criminels et font des recommandations, passent des résolutions et écrivent des textes de loi pour statuer sur le sort des criminels. Les législateurs légifèrent et la police joue du pistolet et de la matraque. Ils sont tous d'accord, dans les mots et dans les actes, pour répondre à la violence par la violence. Existe-t-il un précédent dans l'histoire indiquant que cette méthode peut fonctionner ? Je n'en connais pas. Je ne prétends pas être une autorité en matière de crime. Mon témoignage est celui d'un spectateur. Un spectateur coupable, certes, car j'ai survécu à 4 séjours en pénitencier et à de nombreux passages dans des prisons de comté. J'ai bien connu au cours de ma vie de voleur et de mes séjours en prison pas moins de 5000 criminels. Cela peut sembler beaucoup, mais en détention, on a tout le temps de se faire des amis. Ces 5000 personnes forment un bon échantillon de ce monde souterrain qui alimente la criminalité. Elles allaient du voleur à la petite semaine, capable de chaparder un paillasson avec « Bienvenue » écrit dessus, à ce patricien des prisons qu'est le braqueur de banque. Je me suis autant intéressée aux chapardeurs de paillassons qu'aux braqueurs de banque. Ce n'est pas tant ce qu'ils faisaient qui m'intéressait que les raisons qui les poussaient à agir. Certains d'entre eux étaient des malades mentaux, relevés du cas clinique et avaient l'esprit tordu. Dans l'argot de la prison, on disait qu'il leur manquait une case. Certains étaient en prison parce qu'ils manquaient d'argent, d'autres parce qu'ils en avaient trop, certains par ignorance, d'autres parce qu'ils avaient fait trop d'études. L'alcool, la drogue, la jalousie et l'avarice en conduisaient aussi bon nombre derrière les barreaux. D'autres, enfin, étaient là par perversité, par pur esprit de contradiction. Si la plupart étaient coupables de ce dont on les accusait, ou de crimes équivalents, il y avait ici et là quelques innocents. À l'exception de ceux qui avaient commis des crimes passionnels, aucun n'avait embrassé une carrière criminelle du jour au lendemain. Pour la plupart d'entre eux, une chose en avait amené une autre, et ils en étaient arrivés là, lentement, progressivement. L'un était en prison parce que, gamin, il s'était rebellé contre le flic du quartier, un autre parce qu'il avait perdu son boulot en faisant grève, un autre encore parce que sa femme était tombée malade et que ses enfants avaient faim. Admettons qu'ils aient commis le premier crime. Ils ont fait du tort à la société, et la société, sans chercher à les comprendre, leur a rendu l'appareil, avec les intérêts. C'est un cercle vicieux qui les conduit d'un pénitencier à l'autre. Toute leur histoire raconte la même chose, leur haine de la police, leur mépris de la loi, leur peur et leur méfiance vis-à-vis de la machine judiciaire. Mon histoire est classique. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai cru que les policiers étaient des héros, des gens qu'il fallait admirer, en qui l'on pouvait avoir confiance. Puis un soir, sur un malentendu, l'un d'entre eux m'arrêta, m'embarqua et me jeta derrière les barreaux. Le traitement que lui et ses collègues m'infligèrent fit voler en éclats toutes mes illusions. Les 25 ans qui suivirent ne firent que confirmer les impressions que cette première expérience m'avait procurées, et il m'a fallu presque toute une vie pour comprendre que le flic est lui aussi une victime de la machine qui fabrique les criminels. Je connais des centaines de criminels repentis, mais je n'en connais aucun qui ait été réformé par la matraque d'un policier, une condamnation sévère ou des mauvais traitements en prison. Ce ne sont certainement pas les coups de fouet que j'ai reçus dans une prison canadienne, ni les 3 jours passés dans la camisole de force, 1 an plus tard sur le sol d'un cachot en Californie, qui m'ont incité à changer de vie. À ma sortie de prison, affaiblie par la camisole, je me suis juré de devenir une créature de la nuit. Je fis le vœu de ne jamais plus laisser les rayons du soleil m'effleurer, de ne jamais plus me faire d'amis, de ne jamais plus rendre service à quiconque. Le personnel pénitentiaire était bien à l'abri dans sa prison. Alors, j'ai décidé que c'était la société qui paierait. Moins de 3 mois plus tard, j'étais de retour derrière les barreaux, condamné pour avoir tiré sur un citoyen qui refusait de se faire braquer. Ces 15 dernières années, j'ai pu m'acheter moi-même mes vêtements et ma nourriture plutôt que de compter sur l'argent des contribuables. Des gens m'ont fait confiance et la justice a été clémente à mon égard. Cela m'a redonné espoir. Le juge, qui m'a condamné à une peine d'un an au lieu de me condamner à perpétuité et de me jeter aux oubliettes, a pris de gros risques. Sa bienveillance a été plus efficace que n'importe quelle potence. J'ai définitivement arrêté de voler. Cet homme m'a donné une seconde chance et je ne pouvais lui faire faux bond. Pas plus que je n'aurais pu trahir l'ami qui avait un jour scié les barreaux de ma prison. Le juge a fait appel à mon sens de la loyauté, la seule vertu ayant cours dans le monde du crime. Il a su trouver comment me coincer, m'obliger à raccrocher et me faire rentrer dans le rang. Une fois encore, je ne connais pas un seul criminel qui ait été réformé par des traitements cruels. Si j'ai pu, moi, me réformer, c'est grâce à la clémence d'un juge qui a dit, lorsqu'il m'a condamné à un an plutôt qu'à perpétuité, « Je pense que vous avez assez de personnalité pour changer de vie. Je vous donne votre chance. » Face à une hausse inquiétante de la criminalité, les experts agissent dans la précipitation, sous la pression d'une foule de citoyens en colère qui voudraient voir les crimes cesser du jour au lendemain. Ils soumettent de nouvelles lois, alors qu'il en existe déjà plus qu'ils ne peuvent en faire appliquer. Ils recommandent le durcissement des peines, alors que l'expérience a montré partout et toujours que ça ne marche pas. Ils prêtent l'oreille à ceux qui s'insurgent contre le fait qu'on materne les criminels, et ils durcissent les conditions d'obtention de la liberté sur parole, du sursis et de l'amnistie, seule mesure pouvant permettre à un criminel de se réformer. Aucun comité de lutte contre le crime ne semble pouvoir venir à bout de ce problème, mais une chose est certaine. Accumuler les nouvelles lois et durcir les peines est une aberration. Qu'est-ce que je reproche en deux mots aux honnêtes gens ? Je soutiens que multiplier les lois et durcir les peines ne peuvent conduire qu'à davantage de crimes et de violences. Il faut privilégier la prévention à la répression. C'est uniquement en découvrant les causes du crime que l'on pourra espérer en venir à bout. Les honnêtes gens prennent le problème à l'envers. S'ils s'intéressaient plus à l'éducation des enfants, ils se désintéresseraient vite de la chaise électrique. Ils ne voient que les crimes et jamais les raisons qui pousse les criminels à agir. Ils ne voient que ce qu'ils sont devenus et jamais ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Voilà ce texte de Jack Black, écrit en juin 1929 et qui fait donc suite à l'ouvrage Yegg dans la dernière édition de cet ouvrage chez les Fondeurs de Briques. Un texte à recommander, je crois, à tous nos hommes et femmes politiques aujourd'hui et à méditer. Je vous souhaite une très bonne lecture.